Bonjour à vous et bienvenue. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec au sommaire ce samedi 20 février le duel Natasha Polony-Jim Finkelstein pour revenir sur les temps forts de la semaine. Et puis, comme une envie de penser à autre chose qu'à la pandémie, à autre chose qu'aux stratégies pour lutter contre le Covid, une envie ce week-end de parler de la beauté, de notre rapport à l'art, justement peut-être parce que les musées sont fermés et que nous en ressentons tous un manque, parfois cruel. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes avec notre invité. C'est un tout jeune philosophe. Il enseigne à l'université Columbia de New York et il publie un essai stimulant consacré à l'autre art contemporain. C'est le titre de ce livre d'un passionné qui propose un manuel de résistance au discours dominant sur l'art contemporain. L'horizon de la création, nous dit-il, ne se limite pas aux œuvres des artistes les plus cotés d'aujourd'hui, les Jeff Koons, les Damien Hirst et même ceux qui les ont précédés, en pensant à Warhol et Marcel Duchamp. Alors comment retrouver ce qui compte vraiment en art? Comment retrouver aussi le chemin de la beauté? Rendez-vous avec Benjamin Oliven dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natasha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Jill Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va commencer avec ce qui a mis le feu au débat public depuis quelques jours. Depuis quelques jours et la prise de parole de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. C'était mardi à l'Assemblée nationale.
Je vais demander effectivement à ce que l'on fasse un bilan de l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays, que ce soit les recherches sur le post-colonialisme. Mais moi, vous savez, j'ai été extrêmement choquée de voir au Capitole apparaître un drapeau confédéré et je pense qu'il est essentiel que les sciences humaines et sociales se penchent sur ces questions qui sont encore aujourd'hui d'actualité.
Une polémique partie donc de la critique de l'islamo-gauchisme par la ministre sur CNews. Islamo-gauchisme qui gangrènerait la société et les universités. Et une critique qui s'est prolongée en mise en accusation des études postcoloniales avec cette référence aux émeutes du Capitole à Washington il y a quelques semaines. Que vous inspire cette séquence, Gilles ?
Bon, passons rapidement sur Frédérique Vidal. Qui, non contente de se mettre à dos davantage encore, dirais-je, le monde universitaire dont elle est censée avoir la charge, a été désavouée par le président de la République lui-même, qui a été obligé de rappeler son attachement à l'indépendance de la recherche. On pense à la célèbre phrase de Françoise Giroud, par laquelle elle terminait en 1974 un éditorial assassin contre Jacques Chaban-Delmas. On ne tire pas sur une ambulance. On a oublié ce par quoi elle commençait son papier. Il semble de plus en plus égaré dans une partie qui n'est pas la sienne. Donc, passons sur Frédérique Vidal et venons au fond et à la difficulté récurrente d'avoir ce débat de fond qui, je crois, mélange deux questions. Il y a une première question sur l'islamo-gauchisme.
Oui.
Est-ce que l'islamo-gauchisme existe? Est-ce que le terme est le bon? Moi, c'est un mot que je n'utilise plus parce que je trouve qu'il est, son usage est devenu de plus en plus politique, de plus en plus polémique, de plus en plus polysémique, mais il a eu à l'origine, je crois, une réalité, enfin il a toujours une réalité, mais il avait une définition possible qui était une dérive de l'extrême gauche qui avait toujours fait de la question sociale sa question centrale, qui avait fait de l'ouvrier la figure de l'exploitation et qui petit à petit a glissé, a fait de l'ouvrier, a remplacé l'ouvrier par l'immigré, puis l'immigré par le musulman et a commencé à faire de la question raciale la question centrale. Et c'était cette jonction qu'on a pu appeler, je crois à raison, l'islamo-gauchisme, qui s'est traduite parfois politiquement dans des listes électorales, quand on a vu quand le NPA, par exemple, a mis sur ses listes une jeune femme qui était voilée.
Enfin, c'est quand même resté toujours très marginal.
Oui, oui, mais ça, voilà.
En politique.
Cette réalité-là existe. Elle existe aussi dans le champ intellectuel et dans le débat public. Bon, ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point qui est le débat sur l'université et sur l'islamo-gauchisme à l'université. En réalité, ce n'est pas ça qui a été visé. D'ailleurs, entre la première interview et ce qu'elle dit à l'Assemblée nationale, elle fait évoluer le propos, puisque en réalité, ce qui est visé, ce sont les études de genre, les études postcoloniales, les études sur les discriminations. Je crois que ces études ont eu et ont une utilité. Elles permettent de mettre au jour un certain nombre de choses que l'on n'avait pas vues, et y compris l'articulation entre ces différents phénomènes. C'est-à-dire qu'il y a un bon usage de ce qu'on appelle l'intersectionnalité.
Et on a eu l'occasion d'en discuter ici à de nombreuses reprises.
Dont la semaine dernière encore avec Françoise Vergès. Mais, et je termine par là, elles occupent, je crois, une place qui est aujourd'hui une place excessive, une place presque hégémonique dans l'université, et que surtout, au-delà de la place qu'elles occupent, certaines d'entre elles ont une dérive qui font de la question de l'identité une question qui s'est substituée à la question de l'égalité et qu'elles occupent, je crois, une place qui est excessive.
Natacha Polony.
Alors, pour reprendre un petit peu la progression mise en place par Gilles, premier point, en effet, Frédéric Vidal a été d'une absence absolument remarquable pendant toute cette pandémie, alors même qu'en septembre-octobre, il eût été intéressant que la ministre de l'Enseignement supérieur se mit en peine de préparer la rentrée universitaire pour éviter les risques de propagation du virus dans les universités. Ça n'a absolument pas été fait. On a attendu un temps infini pour prendre en compte la misère des étudiants aujourd'hui, les situations absolument dramatiques qui existent. Et j'ajoute un point, l'université française va mal. Elle est en voie de paupérisation. Il y a une réflexion de fond à mener sur son organisation, sur l'organisation d'ailleurs du système d'enseignement supérieur en général, parce que c'est l'articulation entre l'université, les grandes écoles qui doit être posée. Donc tout ce travail-là devrait être fait et ne l'est pas. Donc Frédéric Vidal est d'une maladresse insigne lorsqu'elle se lance dans un débat dont visiblement elle ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, au lieu d'agir là où il y aurait urgence.
Maladresse autant, ou véritable stratégie politique, idéologique?
Je pense que c'est une maladresse absolue et une, j'allais dire, là, oui, je vais peut-être moins gentil que Gilles, la preuve d'une incompétence. Mais pour autant, ce qui m'a profondément énervé cette semaine, c'est la façon dont beaucoup se sont saisis de cette maladresse et de cette incompétence pour dire. Bon, en fait, il n'y a aucun problème. Donc tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir. Frédéric Vidal est absolument nul, c'est idiot, ce terme-là n'existe pas. Quand on voit le CNRS lancer un communiqué pour expliquer que le terme d'islamo-gauchisme n'a pas de validité scientifique, en effet, enfin... Pour le coup, la validité scientifique, c'est quelque chose qui se construit, qui se construit notamment dans le débat scientifique.
Oui.
Moi, c'est un terme que je n'utilise pas parce que je me méfie beaucoup des mots slogans et du fait que certains mots, en effet, à force d'être partagés, à force d'être utilisés comme armes politiques, ne signifient plus rien et sont vidés de leur sens. Et il faudrait avoir le temps à chaque fois de les redéfinir avant chaque usage, ce qui ne peut pas toujours être fait.
Mot piège, disait Thomas Legrand sur le trentaine.
Oui, mais ce mot, moi, quand je lis des articles expliquant, c'est un mot de l'extrême droite. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, Pierre-André Taguieff, qui est celui qui, en France, a popularisé ce terme, n'est pas d'extrême droite. Et il l'a utilisé, en effet, pour désigner un courant très précis au lendemain notamment de la deuxième intifada, et il y a une définition, il a forgé un concept. Donc ce concept n'est pas plus absurde, me semble-t-il, scientifiquement, que ne le sont des termes acceptés par le CNRS comme privilège blanc, racisme systémique, etc., qui aujourd'hui fleurissent dans les sciences sociales. Parce que je pense que des concepts contestables dans leur validité scientifique, il y en a beaucoup aujourd'hui.
Mais quel lien entre l'islamo-gauchisme, le post-colonial et l'occupation du capital?
J'allais y venir. Non, aucun. C'est pour ça que je dis que Frédéric Vidal... Enfin, aucun. En tout cas, là, on ne comprend pas pourquoi Frédéric Vidal fait allusion au Capitole pour essayer de se dédouaner, pour dire, vous voyez, moi aussi, je lutte contre l'extrême droite. Enfin, c'est absurde. C'est aberrant. Et le terme islamo-gauchisme, en effet, Gilles l'a dit à l'instant, n'était pas le bon, dans la mesure où ce n'est pas ça le problème des universités. Le problème des universités françaises, et en particulier des sciences sociales, c'est que un courant tend à s'imposer... Un courant idéologique, alors qu'il faut un équilibre, normalement, des différentes visions dans l'université pour permettre justement à la pensée de progresser. Là, petit à petit, les postes étant distribués dans certaines études par cooptation, on voit comment petit à petit ce courant idéologique s'impose et a tendance à empêcher le surgissement d'autres pensées, tout simplement parce que des jeunes chercheurs sont petit à petit mis de côté, ou en tout cas n'ont pas les postes qu'ils voudraient parce que eux pensent mal, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force au sein des universités, ce qui a toujours existé.
Oui.
Mais il est nécessaire de le dire et d'y réfléchir. Aujourd'hui, certains penseurs, regardez, quand une femme comme Sylviane Agacinski, qui quand même a été une figure de gauche, explique qu'aujourd'hui elle est renvoyée à l'extrême droite et surtout qu'elle ne pourrait pas mener la carrière qu'elle a menée, qu'elle ne pourrait pas travailler à l'EHESS aujourd'hui, je pense que il faut tout de même se poser 2-3 questions, le faire avec prudence, certainement pas de la manière dont le fait la ministre en essayant de contrôler la recherche, c'est une catastrophe absolue. En revanche, nier qu'il y ait aujourd'hui un courant dominant de plus en plus sectaire dans les universités françaises me semblerait assez fou.
Gilles Finkelstein.
Un mot pour conclure sur ce sujet. Je crois qu'il y a un débat autour de la liberté académique et de la préservation de la liberté académique qui n'est pas, qui ne doit pas être la responsabilité de l'État. C'est-à-dire, c'est pas l'État à distinguer de la bonne et la mauvaise recherche, c'est une responsabilité de la société et du monde universitaire. En revanche, les moyens académiques, ça c'est la responsabilité de l'État. Natacha a parlé de paupérisation, la France est un pays qui consacre beaucoup moins de moyens à ses universités que les autres pays, et les mesures, la loi qui a été adoptée est à la fois tardive et d'entrée en application beaucoup trop lointaine. C'est un monde qui souffre aussi de bureaucratisation de la recherche de plus en plus importante, et au fond, et je termine par là, d'une sorte d'incompréhension. Et d'incompréhension parce que, à la différence de ce qui se passe dans la plupart des autres pays, les responsables politiques français ne sont pas issus du monde universitaire. Mario Draghi est un universitaire, Angela Merkel est une universitaire, Boris Johnson est un universitaire, ce n'est jamais le cas en France.
Merci à tous les deux pour cet échange apaisé à propos de ce sujet qui a mis le feu au débat public. Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face, le duel.
Pour faire la loi, il ne faut pas improviser sur un sujet qui engage la démocratie. L'élection présidentielle étant la mère de toutes les élections, sans aucune concertation avec les partis politiques, sans avis du Conseil d'État. C'est déjà, dans la forme, une sorte de volonté de passer en force. Et on se demande pourquoi.
C'était la voix du sénateur Les Républicains Philippe Bas qui parlait du vote par anticipation. Mercredi, la commission des lois du Sénat a en effet rejeté l'amendement du gouvernement, amendement qui proposait de mettre en place le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022. Occasion manquée à en croire La République En Marche, qui voyait à travers ses représentants et dans ce texte une manière de moderniser la vie démocratique. Natacha, qu'en pensez-vous ?
Alors, j'en pense qu'il faut toujours mener ce genre de débat de la part des politiques avec énormément de prudence, parce que on se prend dans la figure systématiquement ce qu'on a tenté de faire, que ce soit d'ailleurs de bonne foi ou avec des arrière-pensées. Là, en l'occurrence, y avait-il une arrière-pensée lorsque cet amendement a été proposé, donc, pour mettre en place le vote par anticipation? Des mauvais esprits ont remarqué, par exemple, que l'élection présidentielle risquait de tomber au moment des vacances de Pâques de la zone C, c'est-à-dire de Paris.
En 2022.
Et que donc, les électeurs potentiellement macronistes pouvaient être en week-end ou en vacances à ce moment-là, et donc qu'il fallait trouver une façon pour eux de voter. Ce sont de mauvaises langues qui ont eu ce genre de réflexion, et on ne comprend pas d'où ça a pu leur venir.
Non, au second degré.
Mais voilà, c'est le débat qui est né, et c'est parce que ce débat ne pouvait pas ne pas naître, parce que il y a toujours des soupçons quand on touche aux règles d'organisation des élections.
Oui.
Cela dit, nous allons être obligés de nous poser la question de des différentes modalités de vote. Par exemple, c'est vrai que la question, c'est de savoir si la République En Marche a voulu faire un signe en direction du MoDem, qui réclame depuis des années non seulement la proportionnelle, mais une modernisation des conditions du vote. Est-ce que réellement c'est cela ? Emmanuel Macron, rappelons-le, en 2017, dans son programme électoral, prônait le vote électronique. Alors, la seule question à se poser, me semble-t-il, c'est de savoir si tout ça va rapprocher les citoyens des institutions, du vote, de l'élection.
Oui.
C'est la seule véritable question. Or, Or, c'est pas du tout ce qui risque de se passer dans la mesure où le mal est plus profond. Le mal est absolument, comment dire, celui qui gangrène le rapport entre les citoyens et les institutions ne se réglera pas par de la proportionnelle. Il faudrait remettre à plat l'ensemble des institutions, me semble-t-il.
On va y revenir justement, mais sur la question du vote par anticipation à la présidentielle, Gilles, il faut juste rappeler rapidement que les États-Unis, la Finlande, le Danemark, le Portugal ont récemment choisi ce système. Et donc, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi la France ne suivrait pas.
On peut tout à fait légitimement se poser la question. Le point commun aux propositions à la fois sur le vote par anticipation et sur la représentation proportionnelle, c'est d'essayer d'apporter des réponses à la crise de la démocratie représentative que nous vivons.
Et au problème de l'abstention.
Et donc au problème qui s'exprime notamment par le problème de l'abstention, dont on voit la progression, notamment aux dernières élections municipales ou aux dernières élections législatives, où on est au-delà de 50%, dont on voit les conséquences sur la légitimité des élus, mais dont il faut s'interroger sur les causes. Alors, je crois que il y a des causes de fond qui sont les plus importantes sur les crises de sens, l'idée de la représentation qui est moins forte, le moindre espoir dans la politique pour changer les choses. Mais est-ce qu'il y a, et c'est ça le sujet, aussi des causes qui tiennent aux procédures, à l'inadaptation des procédures? C'est l'objet des propositions qui ont été faites sur le vote par procuration, pour étendre le vote par procuration, et il y a des choses qui sont intéressantes. C'est les propositions qui ont été faites sur le vote électronique, sur le vote par correspondance, et donc sur le vote par anticipation. En l'espèce, la forme, une nouvelle fois, comme avec Frédéric Vidal, est absolument calamiteuse. Le débat arrive par un amendement gouvernemental.
Glissé à la dernière minute dans un texte organisé autour de l'organisation des élections, justement.
Voilà, aucun débat. Aucune étude préalable, pas d'avis du Conseil d'État nécessairement puisque ça arrive en cours de route. Bon, c'est sans doute pas comme ça qu'il faut faire. Mais le débat est intéressant. On avait publié.
Vous y seriez favorable ?
Je vais terminer par là. On avait publié le 28 octobre dernier une note de la Fondation Jaurès signée par Émeric Breillet, ancien parlementaire, alors qui n'était pas exactement sur les mêmes modalités, mais qui se déclarait plutôt favorable. Au fond, je trouve que ça repose le débat, vieux débat, entre les démocrates et les républicains. Vous savez, c'était ce débat « êtes-vous démocrate ou républicain » qu'avait lancé Régis Debray à la fin des années 80. Pour un démocrate, ça peut apparaître comme une solution à un problème technique et à une inadaptation de la société à de nos procédures à l'évolution de la société, à une société plus individuelle dans laquelle le consommateur a plus le choix. Mm-hmm. Pour un républicain, ça apparaît, le vote par anticipation, plutôt comme un problème parce que ça apporte une encoche au rituel républicain où on se retrouve tous ensemble le même jour pour voter. Et donc, selon chacun, qu'on est un peu plus démocrate, un peu plus républicain, et parfois on est partagé entre les deux, je crois que la ligne de partage se fait.
Vous êtes démocrate ou républicain ?
Ouais, je suis sans doute plus démocrate que ne l'est Natacha.
Eh bien, justement, on va lui poser la question, Natacha.
Mais sur ce sujet-là, je dois dire que je suis encore en réflexion.
Vous êtes démocrate ou républicaine, Natacha ?
Il n'y a pas de doute.
Non, mais vous y seriez favorable, en l'occurrence?
Il faudrait élargir le débat.
Ou est-ce que vous
débat...
tenez au moment sacré du dimanche où l'on se retrouve dans une école primaire à faire la queue pour voter dans l'isoloir?
Je ne suis pas particulièrement ritualiste, même si je pense que certains rituels sont nécessaires dans l'histoire de la cohésion, l'histoire de la fondation des sociétés. En revanche, premier point, je suis plus attachée à la question de la campagne électorale et le fait que certains votent avant la fin de la campagne électorale peut être problématique. Ça, c'est le premier point. Et ce qui crée une inégalité, une divergence de vue entre les citoyens. Le débat n'a pas lieu jusqu'au bout. Ça me semble quand même une dimension importante. Et deuxième point, pour revenir à la question, êtes-vous démocrate ou républicain? Je pense que le problème est que les démocraties néolibérales sont de plus en plus néolibérales et de moins en moins démocratiques. Et je suis républicaine parce que démocrate, puisque désormais c'est plutôt de ce côté-là qu'on peut sauver la démocratie.
Magnifique art de la synthèse, le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
cap maintenant sur l'Italie qui a maintenant un nouveau président du Conseil, Mario Draghi, celui qu'on appelle aussi Super Mario, ancien patron de la Banque Centrale Européenne, l'inventeur du whatever it takes, le quoi qu'il en coûte au cours de la dernière grande crise financière. Mario Draghi qui compose une coalition politique pour le moins hétéroclite qui va de l'extrême gauche du mouvement 5 étoiles de Pepe Grillo à l'extrême droite et la Ligue de Matteo Salvini. L'Italie est en grave crise économique et Mario Draghi a formulé un projet politique clair, reconstruire le pays comme s'il était dans une situation d'immédiate après-guerre. Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir sur ce qui se passe de l'autre côté des Alpes. Droite suite donc,
oui,
maintenant
suite,
que Mario Draghi est au pouvoir.
On en avait parlé il y a 15 jours, on s'interrogeait sur la majorité qu'il allait pouvoir constituer. Je vais commencer par une remarque qui peut paraître anachronique, inattendue et iconoclaste. C'est que, en regardant cette arrivée de Mario Draghi au pouvoir, son discours d'investiture, la majorité qu'il a rassemblée, je trouvais que ça a un faux air de De Gaulle 58. Oui, ah oui, je vous vois, vous ne, les auditeurs ne vous voient pas, vous avez levé un sourcil étonné, mais il y a...
Jusqu'à mes cheveux.
Jusqu'à vos cheveux. On a deux hommes qui étaient en retrait ou en retraite, qui étaient dans leur maison éloignée des fureurs de la capitale. On a deux hommes qui sont perçus comme des sauveurs, sauveurs de la patrie pour l'un, sauveurs de l'Europe pour l'autre. On a deux hommes qui sont extérieurs au monde politique, qui n'ont jamais été parlementaires ni même jamais élus. On a deux hommes qui reviennent pour le redressement national et on a deux hommes qui réussissent à rassembler une majorité qui est à la fois pléthorique et qui, bah, se faisant, a peu de cohérence. Donc je trouve que ce fil-là m'a amusé, même s'il ne faut pas le pousser trop loin et que les personnalités de Mario Draghi et de Charles de Gaulle sont évidemment très, très éloignées.
Et mais, que Charles de Gaulle n'était pas banquier chez Goldman Sachs.
Absolument pas. La question est de savoir si ça va être une parenthèse, Draghi, ou un tournant. Il dispose, vous l'avez dit, d'une majorité qui est pléthorique. Hein. Il a été élu à son investiture a été votée à l'Assemblée nationale par 535 voix contre 56. Donc, il rassemble pratiquement tout l'arc politique. La question est de savoir où est maintenant la menace pour lui. Est-ce que c'est lui-même, comme ça a pu être le cas à certains moments pour De Gaulle? Est-ce que c'est son prédécesseur, Giuseppe Conte, qui a rassemblé 1 million de voix sur son poste de Facebook de départ, ou est-ce que, ce qui me semble le plus vraisemblable, c'est l'extrême droite qui a fini par se rallier de manière surprenante compte tenu des positions qui étaient les siennes à l'extrême droite sur l'Europe et de ce qu'a dit Mario Draghi dans son discours d'investiture, mais qui est aussi le signe d'une évolution dans le rapport à l'Europe, y compris de l'extrême droite. On a aujourd'hui cette extrême droite qui est bousculé dans son rapport à l'Europe et qui est concurrencé par un parti qui est encore plus à droite qu'elle. Donc si le problème doit venir, ça sera sans doute d'abord de là.
Natacha Polony, avant de passer au débat.
Rapidement, il est assez surprenant de voir à quel point aujourd'hui des voix crient leur enthousiasme face à cette union nationale qui en effet va jusqu'à Salvini. Alors même que les mêmes, je pense par exemple au journal Le Monde titrait en août 2019 Matteo Salvini un péril pour l'Europe, aujourd'hui la Ligue a 3 postes de ministres dont le ministre du développement économique. Et il y a là quelque chose d'assez étonnant parce que évidemment Gilles le disait, c'est une évolution du parti de Salvini dans son rapport à l'Europe, c'est une forme de pragmatisme. Salvini a déclaré, si avec le professeur Draghi on peut parler de baisse des taxes pour les personnes et les entreprises, j'en suis. Mais il y a là quelque chose d'éminemment tactique aussi, et je ne comprends pas bien comment le péril monstrueux d'il y a 2 ans s'est transformé en quelque chose de formidable et de tout à fait acceptable. Dernier point, ça laisse évidemment une comme seule opposition Fratelli d'Italia, qui est pour le coup dans une telle position d'extrême droite que Salvini aurait presque l'air d'un type tout à fait modéré.
Centriste.
Donc il y a là aussi quelque chose qu'il faudra suivre avec attention.